7h17. Bonjour Pierre-Yves.
Bonjour Paul.
Un mot sur Sears, là, qui ce matin, là, on sait, en fait, la division américaine qui s'était placée sous la loi de la protection des faillites.
Oui, il y a une nouvelle qui dit que Andy Lamper et son groupe voudraient racheter Sears, a fait une offre. Évidemment, pour les plus jeunes d'entre nous, Sears, ça représente rien. Mais pour les gens de 30 ans et plus, c'est toute ta jeunesse dans le catalogue. Donc, au Canada, on a fermé ça. C'est un symptôme de la fin du commerce de détail comme on l'a connu plus jeune. Mais aux États-Unis, on tente de sauver ça. On tente de sauver à peu près 45 000 emplois, 425 magasins. Et la question de se poser, c'est, OK, Eddie Lamper et son groupe a déjà de l'argent là-dedans. Donc, a déjà une possibilité de perte, veut sauver le bateau. Mais pourquoi on veut sauver Sears? Quand tu regardes ça à long terme, tu te dis, est-ce que c'est possible de sauver Sears avec Amazon, Walmart et compagnie? Mais j'allais voir les états financiers, Paul. Mm. Quand on regarde les états financiers, on voit qu'il y a des buildings puis il y a des terrains dans Sears. Donc, les gens qui se demandent, mais pourquoi faire une offre sur Sears? C'est qu'au minimum, tu maintiens les opérations. Et si un jour, tu vois que des secteurs qui deviennent moribonds, mais que l'immobilier est intéressant, tu convertis. C'est un peu le débat avec l'abbé. Tu sais, l'abbé a des actifs immobiliers qui valent plus cher que l'exploitation des l'abbé. Donc, on fait une transformation tranquille. Tu sais, au centre-ville de Montréal, je suis pas sûr que la rentabilité du magasin l'abbé est aussi grande que la valeur si tu vendais en condo ou en immeuble ou en locatif de bureau l'immeuble. Donc, c'est un peu ça le débat, c'est-à-dire, il y a une valeur minimale à Sears qui n'est pas 0$, contrairement à d'autres magasins qui ne sont qu'en location. Tu sais, si tu loues une quinzaine de boutiques dans des centres commerciaux, ta compagnie vaut rien si ça vend pas. Mais Sears a des actifs avec des justes valeurs marchandes et il y a peut-être là une valeur minimum okay. que tu peux avoir.
Intéressant à suivre. Parlons de Procter & Gamble qui veut changer l'image de Gillette.
Oui, il y a une publicité virale qui dit, dans le fond, on vous a vendu pendant 30 ans l'homme blanc, sportif, performant, presque une image un peu, disons, cliché. Et là, on dit, on vous vend l'image d'un homme de tous les genres qui se remet en question en se regardant dans le miroir. On a fait une publicité qui est dans la ligne du Me Too et autres. Et on dit, regardez, l'homme, la masculinité a changé. Regardez-vous dans le miroir changer. Et ça se partage. Et les gens partagent la pub. Ils disent, waouh, Gillette a évolué. Bravo, blablabla. Et là, on se rend compte que tout ça, c'est bien parce que ça change. Ça montre l'évolution sociale. Mais d'un autre côté, ça montre comment le marketing est puissant. Comment une entreprise de marketing a dit, il y a une tendance. On va en profiter, on va mettre un signe de pièce au bout de tout ça. Parce que Gillette, ça fait partie de Procter & Gamble, et si on regarde les revenus, mais pour le dernier trimestre publié, on est à près de 17 milliards de ventes, 3,2 milliards de bénéfices nets. Et en faisant une campagne du genre, on veut changer l'image pour aller chercher plus de gens et plus de gens pour acheter des produits et les attacher à la marque. Ça peut être dangereux parce qu'évidemment, tu envoies un message un peu différent, un peu comme Nike avait fait avec Colin Kaepernick, où on brûlait des Nike.
Ouais.
Et là, on va aller plus loin. Tu sais, t'as d'autres entreprises qui l'ont fait dans le passé, bien avant. Par exemple, Dove, avec l'estime de soi depuis au moins 15 ans, fait en sorte qu'ils disent, les femmes ou les filles, on vous vend l'estime de vous-même parce que c'est beaucoup plus payant. Parce que Dove se disait, écoute, il y a bien plus de gens qui ne représentent pas le cliché des mannequins que des gens qui représentent le cliché des mannequins. Donc, au lieu de leur vendre du rêve, on va leur vendre que c'est correct, donc elles vont adhérer à notre marque. Et en même temps, Unilever, de l'autre côté, vendait du Axe qui continuait à faire foi de tous les clichés qu'on a vus au niveau de l'apparence et de la fille au service de l'homme. Donc, c'est drôle, hein, maudit, de voir une compagnie qui a deux brands, deux marques, mais que d'un côté, elle a vanté l'estime de soi, et de l'autre côté, elle profitait des clichés corporels passés. Donc, n'oublions jamais que tout ça, toute campagne, c'est du cash.
Un mot sur le fameux marché Good Food, là, les repas qui sont pré-mesurés.
Ouais, là, Good Food dit, c'est bien beau, on a une base de clientèle, on dépense beaucoup d'argent pour aller en acquérir, mais on a besoin de croissance, mais on a surtout besoin de faire du profit. Donc, comment qu'on peut faire? Maintenant, on va s'attaquer au déjeuner. On va tenter de te vendre, je sais pas moi, tes deux œufs bacon préférés, je sais pas. On va aussi te vendre des repas pré-préparés, comme un peu le fait.
Une poule qui va arriver dans une boîte puis qui va te pondre un œuf le matin.
Je sais pas, mais le problème avec Good Food, c'est la quantité. Pour que la livraison soit rentable, que ton repas soit à un prix raisonnable, faut qu'on réussisse à te vendre plus de bouffe. Et on veut rentrer dans le déjà cuit. Comme un peu, par exemple, les boîtes de Jérôme Ferrer, là, boîte du chef. Donc, on veut rentrer là-dedans pour augmenter. Je t'allais voir les statistiques, Paul. 30% de notre consommation de nourriture au Canada en dollars dans les ménages, c'est de la restauration. Donc, peut-être qu'on va aller chercher une part de ça. Mais au total, l'action est encore à 3$. Elle a augmenté cette année, mais par rapport à l'année passée, on est à peu près au même niveau. Donc, on veut rentabiliser parce qu'on dépense beaucoup d'argent avec des pubs Facebook puis des vedettes à nous convaincre d'acheter des boîtes Good Food. Donc, on a fait 6,4 millions de marge brute, mais on a brûlé 10,8 millions en frais de vente et d'administration au cours du dernier trimestre. Donc, tu vois que on a beau vouloir vendre plus, faire de la croissance, mais pour l'instant, on a perdu 4,9 millions de dollars dans un trimestre. Donc, ça prend plus de ventes par ménage pour réussir à arriver.
Ouais, mais moi, je l'ai essayé, mais des fois, je trouve ça long.
C'est, ah, OK, fait que c'est pas plus long que finalement de le faire toi-même dans ton épicerie avec l'économie d'échelle.
Ben, je sais pas. Ben, de préparer, là, tu suis la recette, peut-être parce que je suis en dessin, là.
Je peux te conter une anecdote?
Vas-y.
Il y a un couple que je connais de loin par internet. Ils ont acheté les boîtes Good Food pour une personne qui travaille chez eux pour leur préparer. Donc, ils engagent quelqu'un pour préparer la boîte Good Food qui arrive de l'extérieur. Donc, tu sais, c'est la sous-traitance à 100%.
Ah, ça, oui, ben ça. Merci, bonne journée. Salut. 7h23.